carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Le musée des arts asiatiques Guimet a reçu le prix 2009 de la Fondation franco-taïwanaise, l'occasion pour Canal Académie de pousser la porte de ce musée parisien, de parler de ses activités, de ses missions et de son ambition au service du public. Le musée Guimet, sur les hauteurs du Trocadéro, est à la fois un écrin pour les collections d'œuvres venues d'Asie, mais aussi un laboratoire d'idées et d'échanges et de recherches. Conformément en fait à la volonté de son créateur Émile Guimet en 1879, qui voulait donner naissance à Lyon à un musée des religions. Cet industriel lyonnais passionné de religions anciennes et de philosophie réussit de son vivant à transférer son musée à Paris dans les 10 ans qui suivit sa création. Cette vocation originelle du musée Guimet donne probablement à l'institution son originalité. Le musée est ainsi à la fois un lieu de recherche, un lieu d'exposition, une bibliothèque, un musée avec ses collections permanentes et un lieu d'exposition et encore de bien d'autres choses. Et nous allons parler de tout cela avec Jacques Chiès, sinologue, commissaire d'exposition, grand spécialiste des arts asiatiques, qui a enseigné à la Sorbonne, à l'École du Louvre, et qui, vous l'aurez compris, a été conservateur en chef du patrimoine au musée Guimet et qui en est aujourd'hui l'actuel directeur. Jacques Gies, bonjour.
Bonjour.
Vous avez, il y a quelques années, très activement travaillé au développement de nouvelles acquisitions au sein de ce musée, à la création de nouvelles galeries au sein du musée. Et le musée des arts asiatiques Guimet a vraiment fait peau neuve il y a quelques années. Avant d'aborder les pièces du musée ou les liens et les expositions en lien avec Taïwan, pourriez-vous nous présenter les collections permanentes de ce musée ?
Alors c'est un musée, le musée Guimet, est un établissement public. Il a été créé et devenu établissement public en 2004 grâce à l'action très très vigoureuse, très suivie de mon prédécesseur, le président Jean-François Jarige. Je suis donc président de l'établissement public du musée Guimet. Cette situation, enfin cette dénomination d'établissement public donne beaucoup de liberté pour entreprendre une politique culturelle et scientifique qui appartient justement au président et à l'équipe, l'administrateur général, Madame Marie-Claude Victou, qui est auprès de moi, également l'équipe, le collège des conservateurs. Il y a 9 conservateurs tout à fait remarquables, chacun étant spécialiste d'un domaine, puisque nous couvrons
alors,
l'Asie.
Alors, une vaste aire continentale.
Très, très vaste, depuis l'Iran oriental, c'est-à-dire depuis l'Afghanistan jusqu'au Japon, depuis la Mongolie jusqu'à l'Indonésie. Le collège donc des conservateurs, mais aussi tous les services, et avec des gens tout à fait remarquables, aussi bien dans les domaines des expositions, de la muséographie, le domaine de juridique également tout à fait remarquable, toute la direction des affaires financières et juridiques à nouveau, l'informatique aussi. Enfin, nous sommes un vaisseau qui a tous les instruments, si j'ose dire, à la fois scientifiques, administratifs, pour exister par lui-même et définir par lui-même une politique scientifique et culturelle qui s'accorde bien évidemment aux vœux, aux choix indiqués par le ministère de la Culture. Alors, le musée Guimet est un musée tout à fait unique en France, je dirais même en Europe et même en Occident, car il est en un seul lieu le résumé de toutes les cultures d'Asie depuis donc...
De ce plateau iranien jusqu'au Pacifique.
Jusqu'au Pacifique. En Europe, donc, il n'y a pas d'équivalent. Il y a au British Museum un grand département des arts chinois, des arts japonais, la Corée, l'Inde et le nord-ouest de l'Inde, l'Asie du Sud-Est. À Berlin, il y a ce Muséum für indische Kunst, le musée d'art indien, et puis le musée d'art d'Extrême-Orient. Et d'ailleurs, un projet très prochain dans l'île des musées à Berlin va consister à créer un second Guimet, d'ailleurs, parce qu'ils vont réunir à la fois le musée d'art indien et le musée d'art d'Extrême-Orient. Ils vont même rajouter quelque chose que nous n'avons pas, le musée d'ethnologie. Alors, Berlin va être encore plus, plus généraliste que nous en couvrant l'ethnologie. Et d'ailleurs, le directeur de cette nouvelle entité est venu à Guimet il y a 3 semaines pour m'annoncer la chose et me demander d'ailleurs de faire partie du bureau de réflexion sur ce projet, donc reconnaissant que Guimet était dans ce domaine un musée
d'avant-garde. Ouais. Il y aurait une politique comme ça, commune, au sein de l'Europe, non pas de l'Union européenne, mais de partenariats très forts entre des musées qui ont une identité similaire, on va dire.
Alors j'aime beaucoup votre question,
oui.
Parce que c'est exactement ce que je veux, ce que j'entreprends avec le musée Guimet, avec l'administrateur général, le collège, des conservateurs et tous les services. Nous sommes décidés, et ceci depuis ma nomination, ça va faire 2 ans, à nous ouvrir complètement au domaine européen, car nous sommes uniques en France, nous n'avons pas d'alter ego. Il y a un merveilleux musée d'art chinois à Paris, qui est le musée Czernuschki, qui dépend de la ville de Paris et qui accomplit des choses merveilleuses sous la direction d'ailleurs de son directeur, Gilles Béguin. Très belles expositions, avec musée avec lequel d'ailleurs nous avons les meilleures relations et nous souhaitons tisser ensemble des liens qui nous permettent d'ailleurs d'avoir, nous avons des échanges, nous avons des dépôts croisés, et son directeur est un ami. Mais en dehors de cela, en France, nous sommes uniques. Donc notre naturelle vocation est de nous porter vers l'Europe, et c'est ici cette chance extraordinaire. Alors avec l'Allemagne, bon, les liens sont très très denses, très serrés, avec les musées de Berlin, que je connais bien parce que par mon histoire même au sein du musée Guimet, j'ai dirigé une partie de la section Chine. Mon collègue Jean-Paul Desroches dirigeait l'autre partie.
Je vais simplement dire que je crois que vous avez débuté votre carrière comme conservateur au musée en 1980.
C'est ça.
Vous avez toute une histoire personnelle avec ce musée.
C'est cela, c'est un attachement très profond. C'est un musée dont on est vraiment, enfin le mot n'est pas trop fort, dont on tombe amoureux parce que le domaine est unique, la richesse des collections est unique. Si vous voulez, j'évoquerai quand même les 4, 5, 6 trésors internationaux qui constituent le musée Guimet.
Donc, oui, raison de plus pour faire rayonner ce musée à l'échelle européenne. Et on peut donc imaginer, je suppose, que vous projetez comme ça dans ces relations avec les autres institutions muséales européennes, peut-être un jour de faire découvrir au public ces quelques trésors, enfin quelques, parmi les plus beaux trésors de ces grandes institutions. On pourrait peut-être imaginer des expositions itinérantes. Enfin, tout ça, c'est donc ce que vous mettez en place.
Ce que vous dites est tout à fait la politique. La politique, nous souhaitons organiser des expositions, tisser ces liens très intimes entre nous, avoir des expositions, par exemple, envoyer le meilleur de nos collections à Berlin, à Londres, à Stuttgart, à Rome, à Madrid ou dans d'autres villes. L'objectif aujourd'hui, me semble-t-il, je suis très européen par nature, par esprit, l'objectif c'est justement d'irriguer l'Europe de ce savoir dont nous détenons une parcelle, une partie. Je reviendrai quand même sur ce savoir qui mérite d'être enrichi, d'être modifié ou plutôt nouvellement éclairé.
Et est-ce que cette force, parce que ça sera une force supplémentaire pour nous tous, justement permettra de... Là, il y a déjà des liens très profonds avec Taïwan, dont on va parler en particulier, mais comme vous devez avoir des liens similaires aussi avec les autres musées d'Asie, que ce soit en Inde, ou au Japon, ou en Chine, j'imagine. Peut-être que, justement, c'est à l'heure de la mondialisation, il y a de nécessaires mues.
Absolument.
Comment vous procédez comme ça, dans le regard avec les autres, avec l'ailleurs, avec l'Orient, là?
Voilà. Alors, le musée Guimet, à cet égard, l'établissement public du musée Guimet à Paris, est celui qui est le plus réactif, évidemment, à la globalisation. Parce que la globalisation, c'est quoi, finalement? C'est l'éveil de l'Asie. Soyons brefs, c'est cela, c'est l'éveil de l'Asie. L'éveil de l'Asie qui nous touche, qui nous questionne, qui nous inquiète. Et nous voulons, nous, contribuer par le savoir que nous avons, l'expertise que nous avons, expertise d'histoire de l'art, d'histoire tout court, d'histoire des religions, de la pensée, etc. À dire, après tout, cet éveil de l'Asie n'est rien, n'est pas à craindre. Il est au contraire à comprendre et à mieux, accueillir, justement pour que nous puissions avoir, nous, de notre côté, une image somme toute plus claire aussi de ce qu'est l'Europe, de ce qu'est l'Occident en Asie. Car il reste quand même, dans nos rapports entre Orient-Occident, des préjugés qu'il faut surmonter, des préjugés très regrettables. Moi, je définis la politique de Guimet dans ce sens. D'une part, il y a une œuvre, je dirais, pour surmonter certains obstacles culturels, d'ordre culturel, qui sont des obstacles purement imaginaires, mais ils sont souvent les plus terribles, car ils appartiennent à des clichés. Le fait de dire que nos humanités ne se sont jamais rencontrées, qu'elles se rencontreraient aujourd'hui dans ce qu'on appelle globalisation, c'est tout simplement une grave ignorance historique. L'Orient et l'Occident se sont rencontrés depuis des millénaires. Les conquêtes d'Alexandre qui vont jusqu'aux portes de l'Inde ne sont que déjà très tardives par rapport à des contacts entre des humanités qui n'avaient pas leurs historiens pour raconter ces grands exploits. Mais on sait très bien, par exemple, depuis l'Antiquité, que le bleu de lapis-lazuli utilisé, par exemple, à Pompéi, venait de Badakhshan. Donc, il y a quelques témoignages, je dirais d'ordre matériel, d'un grand et vaste réseau du commerce transcontinental qui devrait faire réfléchir sur la nouveauté de la globalisation, dont on nous dit qu'elle est un mode de vie et presque un temps nouveau dans l'histoire de l'humanité. Non. Et il y a aussi des préjugés qui sont, par exemple, celui du colonialisme, abordé d'une façon souvent très caricaturale, en ne gardant que cela, pour l'Occident qui pèserait sur ces pays d'Asie, dans un rapport inégal et terrible, il faut le reconnaître, ils ont été terribles dans certains cas, mais de l'autre côté aussi, une incompréhension complète de ce que sont ces pays, par ignorance, tout simplement, de leurs valeurs culturelles, philosophiques et religieuses.
Alors peut-être pour illustrer cette politique, cette audace, vous avez en ce moment au musée Guimet une exposition « Pakistan, les arts du Gandhara ». Effectivement, pour briser les clichés, le Pakistan, j'allais dire pour monsieur tout le monde, bon, c'est pas forcément aux arts qu'on pense quand on pense au Pakistan. Racontez-nous.
Vous avez mentionné le titre.
Oui.
Pas complet.
Terre de rencontre. Je vous laisse le.
Et c'était ça le plus important.
Bien sûr.
Car c'était dire, par exemple, j'aurais bien fait une exposition sur Afghanistan, terre de paix, pour parler justement de cette époque bouddhique ou même post-bouddhique. Voilà. Pakistan,
puis,
terre de rencontre.
Et puis, à propos de temps et de millénaires, premier au VIe siècle.
Premier au VIe siècle.
Après Jésus-Christ.
Après Jésus-Christ.
C'est une longue histoire.
Une longue histoire. Une histoire qui est au début de notre ère. Le Pakistan, ce pays qui aujourd'hui n'est présent dans nos esprits que par ce terrible malheur de la guerre et de la violence, l'intégrisme, l'ignorance qui règne. Et nous voulons montrer par là que, précisément quand il s'agit d'un pays comme celui-là, qui est un pays au milieu du continent euro-asiatique, eh bien nous ne pouvons pas parler de « si l'extrémisme règne, c'est une fièvre ». C'est une fièvre malheureuse, douloureuse, mais ce n'est pas l'état permanent de cette région. L'état permanent de cette région, c'est d'être un lieu de passage. Et c'est ce que nous voulions montrer, c'est aussi la vocation de Guimet, de montrer ici qu'il y a moyen de surplomber, de dominer, de dépasser ces clivages tragiques, qui aujourd'hui d'ailleurs se fondent, ces clivages suivent des lignes de fracture, soi-disant philosophiques, je dirais plutôt de fantasmes, de quelques intégristes qui font croire que ces systèmes philosophiques, ces systèmes religieux, ne sont pas, ouverts aux autres. Ceci est un grand malheur, mais ça ne concerne que quelques esprits étroits. La vocation de Guimet, c'est de montrer, effectivement, ce que la leçon de l'orientalisme, c'est-à-dire ce que sont les valeurs pan-asiatiques.
Oui, parce qu'il y a deux grands pôles, le monde indien et puis le monde sinisé. Pour Guimet, il y a ces deux pôles-là.
Alors, justement, c'est ça l'Asie. L'Asie, que certains pays intermédiaires soient choqués par l'image, c'est vrai qu'il y a deux grands pôles qui ont irrigué véritablement tout le domaine culturel, religieux et même de différentes représentations, c'est le monde indien et le monde chinois. Ce sont des mondes d'ailleurs qui eux-mêmes
aussi.
Sont très distincts l'un de l'autre, vraiment, véritablement très distincts. Leur langue, leurs valeurs culturelles, religieuses sont très distinctes. Simplement, il y a eu quand même ce miracle, on peut le dire, historique, qui a fait de l'Inde un pays intermédiaire entre l'Occident et l'Orient. L'Inde a littéralement irrigué le monde des valeurs de la civilisation, le monde des valeurs religieuses de l'Asie pendant des millénaires, depuis le VIe siècle avant notre ère. Toute l'indianisation, d'abord le mot est très clair, de l'Asie du Sud-Est ou même de l'Extrême-Orient. On pourrait dire aussi que le monde chinois a été indianisé à travers le rayonnement du bouddhisme. Mais quand je dis monde chinois, il faudrait aller jusqu'en Corée, au Japon, voilà. Et puis, autour du 10e, 11e, 12e siècle, alors l'Inde se tourne vers l'Occident. C'est un monde étonnant, car il est le pivot véritablement de ses influences. Il tourne vers l'Occident. Là, la partie est jouée en Extrême-Orient, c'est la Chine qui va rayonner de tout son éclat, même dans des parties autrefois indianisées, comme la Haute-Asie du Turkestan oriental, où le bouddhisme chinois, après avoir reçu le bouddhisme qui est indien, va rayonner, et puis sur tout le monde de l'Asie. Donc c'est un monde passionnant que ces deux millénaires et demi. C'est un monde passionnant, d'autres valeurs, d'autres conceptions, tout ceci dans une interaction extraordinaire avec des langues passionnantes.
La fondation franco-taïwanaise abrité au sein de l'Académie des sciences morales et politiques, vous a décerné en 2009 le prix franco-taïwanais, justement pour toutes ces recherches et toute cette collaboration muséale entre le musée Guimet et les autres musées de Taïwan. Dans cette vaste aire géographique que vous venez d'évoquer, comment un musée qui est habitué aux classifications, mais qui en même temps prend ses libertés avec les classifications, l'histoire de l'art, parce que justement, comme vous venez de le démontrer et de le dire, ben là, il n'y a pas beaucoup de frontières, ou sinon le fil du temps de l'histoire et des temps forts de l'histoire. Alors, comment est-ce qu'on place ou comment on met en valeur les arts d'un pays d'Asie parmi les autres pays d'Asie, et en l'occurrence, Taïwan?
C'est tout le travail. Je dirais, le travail sérieux auquel doit s'atteler un musée. Un musée est un lieu scientifique. Certes, ça, je dirais, c'est la cuisine. Maintenant, ce que voit le public, c'est quelque chose de tout travaillé pour que la rencontre soit facile, le plus facile possible. On nous dit que c'est difficile. Oui, c'est difficile, parce qu'il faut faire un saut, je dirais. Il faut faire un saut intellectuel pour se trouver dans ce monde. Mais celui-ci, quand il est fait, c'est assez facile. Alors, je vais vous parler du côté cuisine. Un musée, c'est un lieu de recherche, c'est un lieu d'étude, c'est un lieu qui s'informe de l'actualité, et l'actualité, c'est avant tout essayer de discerner le plus finement possible toutes les nuances qui font, qui existent dans ces masses, ces ensembles nationaux, culturels, que l'on discernait autrefois. Donc on est arrivé avec le temps, là il y a une histoire de l'orientalisme, si vous voulez, qui est quand même vieux de près de 2 siècles en Occident. Et on était parti de grands ensembles, l'ensemble indien, l'ensemble chinois. Et puis petit à petit, on a découvert l'importance de ces nations d'Asie du Sud-Est. Angkor Wat a manifesté un empire khmer. Et chemin faisant, évidemment, aujourd'hui avec la politique aussi, de la carte, la géographie politique, nous sommes obligés de tenir compte aussi de caractères nationaux. Et Taïwan apparaît là avec une singularité tout à fait inattendue pour la plupart des gens. Pour nous, non, pas inattendu. Pourquoi ? Parce que voilà une population qui, à Taïwan, est ancienne. D'abord, il y a une population aborigène qui, elle, est d'origine, appartient à ce fond de polynésien, au contour assez vague, d'ailleurs. Mais quand même, il y a des éléments qui permettent de faire remonter, de lier ces éléments culturels à ces civilisations de Polynésie au sens large. Mais la population chinoise, donc, Taïwan entre dans l'ère chinoise à partir des Ming. C'est une colonisation, il faut le dire, assez moyenne, je dois dire, sous l'empire des Qing, sous les Mandchous, après 1644, lorsque l'empire Mandchou donc vient au pouvoir. Donc l'empire met sur place les éléments de la continuité, je dirais, administrative chinoise. Simplement, il y a une chose, on est quand même dans une colonie. Et c'est ici peut-être que les comparaisons pourraient surgir entre justement les colonies que nous, les puissances coloniales occidentales, ont créées. On pense à l'Algérie, on pense à jamais. Certes, ils font partie de la nation mère, mais ils sont un peu, ils n'ont pas tous les attributs du pouvoir, ni tous les attributs de l'autorité administrative. Là, par exemple, sous les Mandchous, ne l'oublions pas, pour passer le dernier degré de l'examen mandarinal, le plus élevé, le doctoral, pour devenir un jingshi, c'est-à-dire vraiment un ministre d'État près du pouvoir, il fallait passer sur le continent. Donc il y avait des degrés, si vous voulez. Là aussi, on pourrait dire à la Chine, mais voilà une attitude très ancienne du colonialisme que nous avons mis en œuvre et bien connue par ailleurs. Taïwan, par cet aspect-là, a été une colonie, il faut le dire, avec justement toute cette problématique, difficile problème, justement, pour devenir un ministre d'État, lorsqu'on était très doué, eh bien, il fallait passer sur le continent et passer les examens. Puis il y a eu la guerre, il y a eu donc ce clivage, ces embranchements, je dirais, qui sont éloignés, divergents.
Politique.
Et là, donc, on a cet afflux, à la suite de Chiang Kai-shek, cet afflux de réfugiés, qui veulent conserver et espérer d'ailleurs reprendre les choses
en main. Une question de curiosité, est-ce que dans cette période du début de Taïwan, il y a eu des œuvres d'art qui sont sorties de Chine? C'est une question.
Alors justement, il y a eu le trésor, je dirais les regalia.
Avec quoi sont-ils partis ou ont-ils voulu partir?
Voilà, alors tout ce qui était la légitimité du pouvoir chinois, je ne dis pas de l'Empire, puisque l'Empire avait disparu, c'est la République, mais avait aux yeux donc de Chiang Kai-shek, tout ceci, les instruments du pouvoir en quelque sorte, était recelé par la richesse culturelle de l'ancien palais. C'est une partie de cette richesse qui a été emportée donc dans l'île de Taïwan. Ceci avec l'espoir justement de rapporter à Pékin cet ensemble. D'ailleurs, les caisses sont conservées au musée du Palais à Taïwan. Ces caisses qui ont permis le transport, permettant aussi le transport. Mais alors, ce qui est intéressant dans le cas de Taïwan, c'est que, à côté de cela, l'île a eu une histoire culturelle extrêmement propre et de très grandes inventions. L'île a été donc occupée par les Japonais pendant 70 ans, puis après il y a eu la guerre, cette histoire à la suite. Mais déjà, on voit à la fin du 19e siècle des peintres taïwanais, par exemple, étudier à Tokyo. Alors, c'était la découverte de la peinture occidentale. En même temps, ils étaient des peintres, je dirais, chinois, dans l'esprit, maniement du pinceau et de l'encre. Et c'est à Tokyo qu'ils ont eu ce reflet, enfin, cette connaissance de la peinture occidentale, peinture à l'huile, de l'aquarelle aussi, le sens des couleurs, ces notions de perspective et tout. Donc, on a une peinture qui a une singularité, vraiment, et on peut parler vraiment d'un art taïwanais à part entière, jusqu'à aujourd'hui, et encore aujourd'hui, ça s'accuse encore. Et on peut tout à fait faire une exposition, et nous souhaitons la faire, sur la peinture taïwanaise. Et j'entends bien taïwanaise, car là, il y a quelque chose qui se distingue vraiment de la peinture du continent. La rencontre avec l'Occident, c'est une rencontre passionnante, évidemment, pour les artistes chinois. L'école de Shanghai, par exemple, qui naît à la fin du 19e siècle et qui s'affirme par la suite, au début du 20e siècle, prend le virage justement de la modernité, qui elle est occidentale, la peinture occidentale, via la leçon apprise à Tokyo. Donc c'est une leçon par détour, toujours par la peinture, par les écoles japonaises. C'est toute la question, c'est une question passionnante, et c'est là où se pose justement cette question du colonialisme, qui influence qui. Moi je crois qu'à partir du moment où des artistes sont convaincus, simplement parce qu'un artiste c'est quoi ? Un artiste, c'est quelqu'un qui veut créer un pas nouveau dans l'inconnu. Et je pense que ceci est aussi nos vies. Chacun, être vivant, c'est inventer le futur à chaque fois. Enfin, pour moi, être vivant, c'est chaque jour inventer quelque chose qui n'existait pas. Pour un artiste, qu'il soit peintre ou musicien, c'est inventer quelque chose qui n'existe pas, qui est inconnu. Bon, alors que cet inconnu, lui, arrive par des signaux qui sont ceux de la peinture occidentale. Ces signaux très puissants, très forts aux notions de couleur, notions de perspective, des moyens aussi, des matériaux comme la peinture à l'huile. Donc c'est une recherche. On peut être séduit par l'Occident sans être soumis à l'Occident, c'est ça que je veux dire, oui. Dans le colonialisme. Et donc, voilà, cette rencontre Orient-Occident est passionnante dans le cas de Taïwan, parce que justement, elle permet de poser avec une certaine sérénité cette alchimie qui n'est pas toujours dominée par cette idée absolue d'une force, d'une puissance que l'on qualifie comme oppressante, qui serait donc identifiée comme colonialiste, imposant à ceux qui subissent de n'être que justement des victimes. Il y a aussi, comme nous par exemple, la découverte de ce que nous appelons le japonisme, qui est un phénomène présenté au musée d'Orsay, et d'ailleurs je dirais un mot là-dessus. Si en Occident on s'intéresse, dans l'art français par exemple, à cette rencontre avec l'Orient, nous ne montrons qu'un aspect de la question, le japonisme. C'est une liberté, une ouverture tout à fait libre d'artistes, je dirais, dans leur atelier, sans subir quoi que ce soit, aucune influence, qui ont été absolument séduits par cette marche vers l'inconnu, le non-connu, l'invention. Mais je pense qu'il y a eu la symétrie de la question, c'est... Au japonisme répond l'orientalisme, l'occidentalisme, et je pense que le japonisme, tel qu'on l'évoque, n'est qu'une moitié de la question. Guimet doit avoir cette place d'évoquer ce que fut l'influence de l'Occident sur ces artistes d'Asie. Et je pense qu'elle est indissolublement liée à la question du japonisme. Je crois, et ça je souhaite vraiment pouvoir faire avec le président du musée d'Orsay, établissement public également, Guy Gaucheval, une exposition ensemble, l'établissement public d'Orsay et l'établissement public de Guimet, évoquant justement Orient-Occident, japonisme d'un côté, tel qu'il l'évoque, et aussi l'occidentalisme sur l'Asie. Je pense que c'est une question qui se pose aujourd'hui à l'heure de la globalisation.
vous parliez de pas ou de saut dans l'inconnu, dans le monde de l'art, il y a effectivement des peintres d'Asie qui sont venus jusqu'en Europe. Le musée Guimet a rendu, il y a quelques années, un hommage à ces audacieux au peintre Sanyu. Vous pourriez nous rappeler l'importance de ce peintre et pourquoi il y a eu cette exposition ?
Alors, d'abord, je voudrais dire que cette exposition a eu lieu en 2004. Le titre était Sanyu, l'écriture du corps, et ce titre a été choisi par le commissaire, mon collègue au musée Guimet, Jean-Paul Desroches, conservateur général, et qui a eu, depuis des années d'ailleurs, est fasciné par cette question Orient-Occident. Il a eu l'excellente idée, justement, de faire cette monographie sur Sanyu. C'est un artiste qui a vécu en France, qui a été influencé, évidemment, par l'art d'Occident. Il a travaillé à la Grande Chaumière. Il fait partie de ces artistes de Montparnasse. Donc, on est là, vraiment, dans cette école de Paris, enfin, au sens très large, englobant la présence d'un peintre venu de Chine. Ce qui intéressait, ce qui était vraiment intéressant à Guimet, et ça a été la première fois, d'ailleurs, je crois, que l'on montrait, enfin, à Guimet, une œuvre d'un artiste qui passait le siècle, enfin,
j'allais dire contemporain.
Le fameux XXe siècle.
Voilà.
Cette barrière du XXe siècle. C'est une exposition qui a eu un très, très grand succès. L'œuvre de Sanyu, on ne s'en rend pas compte ici en France, mais est extrêmement appréciée à Hong Kong, en Chine et à Taïwan. D'ailleurs, ces toiles valent une fortune et l'exposition avait, les valeurs d'assurance étaient assez colossales, il faut le dire, pour un artiste si proche de nous. Donc c'est un artiste important et il fallait montrer à la fois, et c'était tout d'ailleurs l'excellent projet scientifique de mon collègue Jean-Paul Desroches, justement montrer que c'est un artiste chinois formé en France et qui justement crée ce lien, un pont, une voie nouvelle. Ça c'était passionnant.
Alors ces premiers ponts, vous avez beaucoup contribué, Jacques Giesse a montré l'importance des arts de Taïwan et de Chine en 1998. En organisant une grande exposition au Grand Palais qui s'appelait Mémoire d'Empire.
Voilà, alors cette exposition...
Ça, elle l'a fait date. Expliquez, avec le recul aujourd'hui, comment vous situez justement l'impact de cette exposition et en quoi consistait-elle ?
Alors d'abord, je voudrais dire que je n'étais qu'un des deux commissaires. J'étais commissaire avec mon collègue Jean-Paul Desroches. Il avait la responsabilité des objets archéologiques et des objets d'art. Moi, j'avais la responsabilité du domaine de la peinture chinoise et de la calligraphie. Enfin, la personne qui a permis tout cela était Jean-François Jarry, le directeur du musée à l'époque, qui justement avait senti ce besoin, cette nécessité de lier, de nouer des liens très importants. Donc voilà, cette vérité. Alors, ce qui nous a énormément surpris, c'est que d'abord, nous sommes allés avec Jean-François Jarry, donc tous les trois, nous sommes allés à Taïwan, donc en 1995, les liens n'étaient pas très très noués, je dois dire, avec Taïwan. Nous avons été magnifiquement reçus par le directeur du musée, le directeur Cheng, et qui a rendu ministre enfin à Taïwan, tellement ce musée est important. Et nous avons été agréablement surpris parce que tout a été fait pour nous permettre, du côté taïwanais, pour nous permettre de présenter une magnifique exposition patrimoniale. Parce que c'est cela qui a été l'enjeu et c'est ça qui a été la réalité à Paris, au Grand Palais en 1998. Nous avons pu présenter un florilège des plus belles pièces du patrimoine archéologique conservé au musée du Palais de Taipei. Patrimoine donc des fouilles de l'Academia Sinica qui ont eu lieu au début du XXe siècle. Nous avons pu également présenter, dans le cadre des objets d'art, enfin un florilège des choses les plus rares. Ça allait de céramique, des céramiques Song et notamment des grands chefs-d'œuvre des Zhou qui sont au nombre d'une quinzaine dans le monde, des grandes céramiques de l'époque des Song du Nord, début des Song du Sud, surtout des Song du Nord. Et puis une collection, alors, un ensemble de peintures chinoises uniques, car environ une trentaine d'œuvres, comprises entre l'époque, entre le IXe siècle et le XIVe siècle, c'est-à-dire couvrant les Tang, les Cinq dynasties, les Song et les Yuan, chose qui est extrêmement rare, on est là dans des œuvres, des incunables, enfin vraiment, eh bien, une trentaine d'œuvres venant du musée du Palais ont pu être présentées au Grand Palais. Également des œuvres, alors, de tout premier plan, des époques Ming et Qing, l'époque Manchu.
Donc, ce sont des œuvres majeures qui ont circulé. C'est assez rare dans cet ordre de grandeur-là, quoi. Je crois que c'est ça qui a peut-être été un peu à la fois un déclic et en même temps qui marque probablement la profondeur des liens que vous entretenez avec le musée du Palais de Taïwan.
Et je dois dire qu'après cette exposition, qui a été une chose absolument merveilleuse, on n'avait jamais vu ça en France et en Europe. Ensuite, le Musée du Palais a présenté d'autres expositions. Il avait commencé avec les États-Unis, nous avons suivi, mais c'était d'autres œuvres. Et je dois dire que, bon, c'était le président Jacques Chirac, qui est, comme vous le savez, un grand féru, un grand amoureux de l'Asie, du Japon, de la Chine. Et c'est grâce à lui que nous avons pu obtenir tant d'œuvres des époques si rares. Je dois dire, ça nous a énormément aidés. Effectivement, quand le président de la République, dans un cadre d'accord entre présidents, de pays à pays, de nation à nation et de président à président, évidemment, quand la politique culturelle suit cette bonne entente, on a des expositions de très haut niveau. Mais je dois dire qu'après cette exposition de 98, le musée du Palais s'est toujours révélé extrêmement présent pour toutes les manifestations que nous avons voulu faire.
Et aujourd'hui encore, puisque pour l'exposition...
C'est une exposition organisée par la Réunion des musées nationaux, mais la matière grise, le projet, l'écriture, tout ceci vient du musée Guimet. D'ailleurs, le commissaire de l'exposition, Catherine Delacour, est donc de cette exposition sur le Tao, est un conservateur du musée Guimet. Et tout le concept vient de là, d'ailleurs, les textes aussi. Et là, je dois dire que lorsque nous avons voyagé, j'ai voyagé avec Catherine Delacour, à Taïwan, c'était il y a un an et demi. Nous, nous avons rencontré donc le directeur du musée du Palais. Nous avons proposé, enfin Catherine a proposé sa liste d'œuvres qui incluait aussi bien des œuvres, des peintures extrêmement importantes, mais aussi des objets d'art, des choses comme ça. Et la réponse positive a été presque immédiate. Et ça, c'est d'une grande rareté, je dirais, entre nos musées, même entre les musées d'Europe. Donc nous avons un lien et je dois dire, en ce qui me concerne, moi, personnellement, j'ai une dette très importante, une dette d'amitié avec Taïwan, avec ses grands musées, non seulement le musée du Palais, mais aussi le musée d'histoire, car d'autres conservateurs du musée Guimet ont fait des expositions avec le musée d'histoire de Taipei, également Jean-Paul Desroches, à nouveau. Et nous avons une dette, et c'est pour ça que j'ai proposé à Taïwan d'envoyer une exposition patrimoniale du musée Guimet de très très haut niveau, qui aura lieu en 2013, selon leur calendrier, pour la création de l'antenne du musée du Palais à Jiayi, qui est un peu plus au sud que Taipei, où le musée du Palais crée ici une antenne pour les arts d'Asie. Et nous allons envoyer nos chefs-d'œuvre de la collection d'art khmer. Donc c'est la première fois que nous enverrons autant d'œuvres, vraiment le meilleur, et des sculptures monumentales de la collection de Guimet, car... nous estimons que Taipei mérite ça.
Quand ces œuvres voyagent, comme ça c'est quand même des œuvres qui appartiennent au patrimoine mondial commun, on sait que certains pays parfois réclament des œuvres qui ont été arrachées ou volées ou prises ou empruntées ou dans le cadre de missions scientifiques ou achetées. Hein, on a tous les cas de figure. En Asie, ça se passe comment sur ce terrain-là? Est-ce que vous êtes souvent soumis à ce genre de questions problématiques? D'un retour des œuvres ou pas, au contraire, parce que là, c'est des œuvres khmer, effectivement, un des joyaux de Guimet qui va circuler jusqu'à Taïwan, où elles vont pouvoir être vues des Taïwanais, mais des autres touristes et des autres visiteurs de tous les pays d'Asie. Alors, est-ce que vous êtes souvent soumis à cette question du retour des œuvres en Asie? Est-ce que ça existe?
Alors, je vais vous répondre en deux temps. D'une part, pourquoi une exposition khmer, d'art khmer, à Taïwan? Parce que l'antenne créée par l'antenne du Sud, à Jiayi, est... a pour objectif de créer un musée des arts d'Asie. Donc, il crée, si vous voulez, un musée Guimet 10.
Voilà.
Voilà. Ils se rendent compte, et ceci est formidable, ils se rendent compte qu'ils sont au milieu d'un monde, d'un univers. Jusque-là, je dois dire, il y avait un certain tropisme sur uniquement le patrimoine, qui était le leur aujourd'hui, donc il s'ouvre à tout cela. Nous envoyons l'art khmer, avec l'accord d'ailleurs, en ayant informé les khmers, enfin les cambodgiens. Pourquoi? Parce que d'une part, nous estimons que certes, la collection à Guimet est une très très belle cohérence, mais ce n'est pas la seule collection. Nous avons, comme je vous l'ai dit, 5 ou 6 trésors absolus mondiaux, c'est-à-dire des collections cohérentes et très riches. Il y a la collection, par exemple, d'art pré-islamique du nord-ouest de l'Inde, c'est-à-dire Pakistan, Afghanistan, toute cette région qui est un autre trésor, la route de la soie, le Turkestan oriental, autre trésor, la collection de tissus, de textiles d'Asie, la collection Ribou, qui est un autre trésor encore. Donc, pas mal de collections uniques au monde et qui sont d'une grande cohérence. Ce qui nous intéresse, là aussi, c'est montrer, donner l'occasion justement aux gens de Taïwan et aux visiteurs qui vont venir, même du continent, à Taïwan pour voir cette exposition, Combien est grande l'Asie? Combien sont grandes ces cultures? Combien le Cambodge, qui a traversé ces périodes terribles, enfin, a une belle et grande histoire et a eu des artistes de premier plan, non seulement des artistes, mais des penseurs, etc. Combien tout ceci mérite, toutes ces nations méritent de s'incliner devant elles et de les respecter. Alors, deuxième question, c'est la demande de restitution. Moi, je suis tout à fait clair là-dessus, je suis pour la franchise, on tourne pas autour du pot, on y va carrément, c'est pas la peine de garder ça sur le cœur. Alors, c'est une question très délicate et en même temps tout à fait légitime. Je dirais, en gros, mais je ne suis pas un sophiste quand je dis ça, du tout, du tout. Je suis un historien, un homme qui enregistre les faits et qui, dit les faits comme ils sont dans l'histoire. Parce que je pense qu'il faut être historien là aussi, il faut revenir à l'histoire. Une œuvre en elle-même, si vous voulez, l'histoire d'un musée, c'est quoi? C'est de mettre en valeur quelques fragments d'histoire qui ont cette particularité dans notre musée d'avoir une consistance tangible. D'autres musées seront dans dans quelque chose de plus éphémère. D'ailleurs, il y a un patrimoine matériel et un patrimoine immatériel, d'ailleurs, identifié par l'UNESCO de façon tout à fait intéressante. Nous sommes dans le témoignage matériel. Alors, le témoignage matériel, à la différence du témoignage immatériel, il ne peut pas se partager, se diviser infiniment. L'immatériel, effectivement, peut se diviser en milliards et milliards de fractions. Le matériel, il est là et pas ailleurs. Enfin, il n'y a pas deux œuvres. Voilà, c'est toute la difficulté. Alors, certes, le fait qu'une œuvre provenant d'une civilisation et qui représente une civilisation soit dans un musée d'Occident alors que nous parlons d'une civilisation d'Asie peut blesser. À partir de quand ceci blesse-t-il? C'est ça qu'il faut savoir.
Ou quand veulent-ils le récupérer?
Alors, mais la question, moi je dirais la question c'est cela quand même. Il faut bien dire une chose.
C'est l'usage qu'on en fait? Vous parlez de blessure?
Alors, moi j'irai plus loin. Moi j'irai plus loin parce qu'il faut remonter à la constitution du musée quand même. Qu'est-ce qu'un musée? Des savants, archéologues, mais aussi conservateurs, vont discerner une œuvre, quelque chose, un objet unique. Ils vont dire, tiens, ceci est vraiment intéressant. Il représente, à mes yeux, Cet objet, avant qu'il ne soit élu et placé dans une salle, n'avait qu'une existence, je dirais, parmi d'autres choses. Et j'irai même plus loin, était invisible. Il faut l'œil du connaisseur, l'œil de l'expert, l'œil du savant, pour parler un langage d'un autre temps, pour discerner ceci. Et une fois que vous le placez dans une salle, dans le musée, alors que faites-vous? Vous le dotez d'une valeur patrimoniale. Alors, il faut s'entendre. Aujourd'hui, les réclamations sont au nom du rassemblement des œuvres patrimoniales, et on le comprend très bien. Et il faut, comme je le disais, s'ouvrir aux connaissances nouvelles, à l'inconnu. Il faut s'ouvrir à ces demandes. Elles font partie de la réclamation d'aujourd'hui. Effectivement, l'identification de ces œuvres à valeur patrimoniale s'opère dans le courant même de la valorisation de ce qui est exposé dans nos musées. Nous avons en quelque sorte magnifiquement réussi, dans la mesure où ces œuvres inexpressives gagnaient une expressivité au point même où elles devenaient le centre aujourd'hui de tous les désirs, pour se retrouver à la fois une dignité, à la fois une valeur patrimoniale. Alors je dirais, voilà, bon, c'est la rançon du vrai succès de cette élection, de ces œuvres. Alors maintenant, toute la question est là.
Est-ce que le musée Guimet est soumis à ce genre de questions?
Alors, bien sûr...
Il y a des exemples ou pas?
Si, il y en a de façon non officielle, si vous voulez. Bien sûr, le canal, c'est toujours la presse. Ce sont les journalistes. Il y a aussi des gens en Occident qui se déclarent être les redresseurs de tort. Et ça peut être des avocats, ça peut être des marchands d'art.
Comment cette question, par exemple, vous en débattez ou pas, avec vos confrères des institutions muséales d'Asie? Est-ce qu'avec eux, la question se pose ou pas? Parce que c'est plutôt connaisseur du même terrain. Quels sont les rapports ou les relations ou les échanges sur
Encore
ce
une
point.
Fois, moi, personnellement, je ne biaise pas. Je ne veux pas biaiser. Je veux qu'on parle de la chose. Donc, nous en avons parlé dans certains pays d'Asie où je suis allé. Nous en avons parlé. Bon. Évidemment, je leur ai dit que je n'étais pas, évidemment, la bonne personne pour la restitution, puisque mon titre, c'est conservateur. On ne peut pas me demander d'être un bradeur. Je suis conservateur. Bon, donc je joue sur les mots. Mais enfin, bon, ce n'est pas une décision qui m'appartient. C'est une décision du pouvoir politique. En plus, c'est une décision, je dirais, qui appartient à notre, dans le cas de la France, C'est une décision qui est juridique. Les collections nationales sont inaliénables. Et ça, donc, c'est la loi. Donc, moi, évidemment, je veux bien qu'on l'aborde. Je réponds comme ceci. Maintenant, ce que je propose est autre chose. Ce que je propose est une solution. La solution, c'est quoi ? La solution, c'est que ces œuvres, effectivement, qui sont reconnues comme étant tellement emblématiques et nécessairement emblématiques de ces patrimoines, puissent être aussi vues, appréciées par les nationaux de ces pays. Alors, la crise aujourd'hui, quand elle devient si virulente et quand elle prend cette tournure, évidemment, empêche le voyage des œuvres. Et ça, je trouve regrettable que, par exemple, des œuvres ne puissent pas bouger parce que, justement, de la crainte, à cause de cette crainte de les voir saisies de façon tout à fait illégale. Alors, je trouve que c'est ça qu'il faudrait lever. Il faut arriver à ce que nous puissions, dans quelques années, j'espère très bref, pouvoir présenter des œuvres contestées sur ce chapitre-là, dans les pays mêmes qui réclament la restitution, mais qu'ils soient présentés au titre d'un partage tout à fait, naturel, et de droit d'ailleurs, de ce patrimoine de ces nations, de ces cultures, par ceux qui, justement, sont les héritiers physiques et les héritiers spirituels et nationaux. Donc, je pense qu'il faut dépasser tout cela. Moi, je propose, justement, à tout, et c'est la politique de Guimet depuis que je suis président, c'est justement de nouer des protocoles d'accord avec les différents pays que je visite. J'en visite beaucoup. Nous sommes allés au Kazakhstan, imaginez-vous, il y a 2 semaines. Justement pour nouer avec eux, comme nous on le fait avec la Chine, le Japon, Taïwan, Hong Kong, etc., Singapour, des protocoles d'accord, d'échanges, qui nous permettront d'avoir des bases, je dirais, juridiques, qui nous autoriseront, par exemple, à faire des expositions doubles, enfin, nous envoyons des œuvres réciproques, beaucoup plus facilement, plutôt que d'avoir à nouveau à signer des protocoles, également avec les grandes institutions universitaires, pour que des étudiants puissent venir ici, que nous puissions envoyer aussi nos propres chercheurs, nos propres conservateurs. En fait, ce que je souhaite, c'est que ces œuvres patrimoniales se trouvent incluses dans la globalisation, qu'elles ne soient pas à cause justement de ces demandes, d'ailleurs sans contrôle aucun des pouvoirs politiques, parce que tout ceci est désordonné, improductif véritablement. C'est le pouvoir, moi, mon but, c'est de pouvoir ouvrir ce patrimoine, que tous puissent le voir, que tous puissent trouver un enseignement et du bonheur à voir ces œuvres. Alors, mais je suis sûr que nous pourrons y arriver, vraiment.
Et puis un des derniers objectifs qu'on va évoquer pour l'émission, les missions nouvelles du musée, que vous avez baptisé récemment, là vous lui avez trouvé un nouveau nom, Extrême Muséum Guimet, qui consiste aussi à ouvrir le lieu à l'expression contemporaine d'artistes venus d'Asie, un petit peu comme le Louvre l'a ouvert à Kiefer. Et là, il y a vraiment une volonté de mêler modernité et art ancien et art religieux. En 2009, tout récemment, vous avez exposé une installation du plasticien Hung Chi Peng, je m'excuse pour le nom, qui s'appelait God Pound. Et comment le public du musée a accueilli cette installation ? En plus, vous lui aviez choisi un lieu particulier au sein du musée.
Tout à fait. Nous avions décidé de présenter 2 œuvres d'artistes contemporains, 2 générations, vraiment, enfin, lointaines. Il y a même 3 générations qui les séparent. Zhu Dejun, d'un côté, qui est un peintre français, membre d'ailleurs de l'académie, de cette académie.
Oui, il y a une exposition sur voilà. Céramique et une émission de Canal Académie.
Ah, très bien. Voilà. Enfin, le Zhu Dejun, donc merveilleux, son œuvre posant aucun problème, les 58 céramiques, puisque c'est une œuvre créée en duo entre l'artiste et
les ateliers de Sèvres,
et les ateliers
je crois.
De Sèvres. La Manufacture nationale de Sèvres, où le directeur, enfin le président Cameo avait donné justement carte blanche et puis donné ses merveilleux supports. Donc l'artiste a fait quelque chose de merveilleux, on a présenté ses 57 ou 58 céramiques peintes. Enfin, pour moi, c'est une seule peinture, en 58 moments, si j'ose dire. Et bon, alors, une œuvre tout à fait acceptée. Les agents chez nous, les agents de surveillance nous disaient « c'est merveilleux ». Voilà, une œuvre tout à fait acceptée, on est dans l'abstraction lyrique, c'était très beau, on voit l'évolution. Et puis, un mois après l'ouverture de cette exposition, nous avons présenté l'œuvre de Peng Hongzhi, qui est un jeune artiste, né en 1969, originaire de Taïwan, et qui est un jeune artiste qui a travaillé à New York, qui également a un atelier aujourd'hui à Pékin et travaille aussi à Taipei. C'est intéressant. Quand on voit vu d'ici, on croit qu'il y a une sorte de conflit vraiment insurmontable. Mais vous avez des artistes qui sont entre les deux. Voilà un artiste qui a un atelier aussi bien à Pékin et à Taipei. Donc, soyons au fait de l'histoire et de ce qui se passe aujourd'hui et des évolutions. Et là, son œuvre était passionnante parce que nous lui avons donné la célèbre, je dis célèbre, même pour ceux qui ne la connaissent pas, parce qu'il faut qu'ils sachent qu'elle est célèbre, la bibliothèque rotonde de la bibliothèque du Musée Guimet, qui est un joyau. Et vraiment, si le public, enfin les auditeurs n'ont jamais vu au moins cette bibliothèque, ils viennent la voir. C'est le cœur vivant et historique du Musée Guimet que nous avons conservé au moment de la rénovation et qui correspond bien au vœu du père fondateur en 1879, Émile Guimet lui-même, qui envisageait ce musée des idées, ce musée des religions, comme étant irrigué par les livres. Eh bien, nous avons mis l'œuvre de cet artiste contemporain qui présentait une installation, une série de 618 petites statuettes de toutes les religions de la Chine. J'entends les trois grands enseignements de la Chine, bouddhiste, taoïste, confucianiste, qui représentent donc Confucius ou Bouddha ou Lao Tzu. Mais il y a une déclinaison infiniment nuancée enfin, de toutes ces divinités. Toutes rassemblées, disposées par l'artiste lui-même dans la rotonde face à un écran de télévision. C'était donc l'œuvre entière qui était là, sur l'écran. Donc il y avait cette création vidéo et la réaction était extraordinaire. Nous avons vu pour la première fois un public d'abord de tous âges, d'abord qui réagissait de façon très libre devant une œuvre d'un artiste contemporain. Et c'est ça qui est passionnant. C'est montrer, sortir en quelque sorte de l'orientalisme du 19e siècle. Qui s'intéressait, je dirais, au pan-orientalisme, c'est-à-dire à tout ce qui était essentiellement oriental, asiatique. Les langues, le sanskrit, le chinois, le mongol, etc. Ces langues, ces religions, le védisme, le brahmanisme, l'hindouisme, le bouddhisme, le jaïnisme, le shinto, le taoïsme, le confucianisme, toutes ces croyances. Le grand orientalisme du 19e siècle était une conquête d'un savoir tout nouveau, étranger, où évidemment, on ne laissait pas beaucoup de place à la, je dirais, à la porosité qui a existé depuis des siècles. Le christianisme est apparu dans la capitale chinoise au 8e siècle. On l'oublie. L'empereur chinois autorisant l'édification de 4 églises chrétiennes. Bon, elles étaient nestoriennes, mais on s'en fiche. Elles étaient quand même liées, hérésies. Bon, quand les jésuites arrivent au 15e siècle avec Matteo Ricci, le christianisme n'est pas nouveau, complètement nouveau. Ce qui est nouveau, c'est les jésuites, je dirais.
Et qui ont laissé au musée voilà. Une belle œuvre, d'ailleurs. Enfin, pas eux, mais je veux dire, il y a le paravent des Portugais.
Des Portugais. Et bon, mais l'islam aussi est très intéressante. L'arrivée de l'islam en Asie est une vraie question qui, je trouve, est une question dont doit s'emparer Guimet, car ça lui appartient. Qu'est-ce que l'islam en Asie ? Ce n'est pas l'islam dans le Moyen-Orient. Et il y a eu, par exemple, l'islam au contact de l'hindouisme. C'est un islam qui, quand même, s'est coloré. De même que l'hindouisme s'est coloré. La doctrine des sikhs, par exemple, est de l'hindouisme matinée de concepts, de notions. Et puis, en même temps, ce qu'il y a de fascinant, et c'est là où peut-être nous sommes complètement... Notre politique vers le contemporain n'est pas de l'ordre du libre choix de confrontation, comme au Louvre, si vous voulez, ou à Orsay. Chez nous, il y a une véritable nécessité scientifique. Nous nous sommes arrêtés trop tôt pour la raison que nous ne traitions que de l'orientalisme. Donc il nous manque 2-3 siècles d'histoire, les plus intéressants, où se sont faits en quelque sorte, se sont opérés ces croisements. Alors on illustre par exemple l'art chinois du 18e, 19e siècle à travers la céramique. Moi je veux bien, c'est un très bel art, un très grand art, mais à l'époque ça n'est qu'un art décoratif. Il y a de très grands peintres au XVIIIe, XIXe siècle. Nous avons quelques peintures, mais même ça va encore plus loin. Il faut aller plus loin. Et justement, nous décrétons, et ça je l'ai décrété en arrivant, c'était dans mon projet d'ailleurs soumis au ministre de la Culture, mon projet scientifique et culturel, c'est que voilà, l'orientalisme, c'est fini. Nous devons ouvrir une page nouvelle qui soit le témoignage de l'Asie, et c'est pour ça que nous faisons entrer l'art contemporain.
Alors, c'est un nouveau visage du musée Guimet. On vous remercie beaucoup, Jacques Giest, d'être venu nous présenter le musée, d'en avoir parlé avec autant de passion. Un musée qui compte énormément pour vous. Merci beaucoup. de nous avoir encore parlé du musée, de l'extrême muséum guillemets, il faut que je m'y mette, hein, un peu de modernité. Un musée unique, en tout cas le plus important musée des arts asiatiques au monde en dehors de l'Asie. Merci beaucoup.
Je vous remercie.